Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les avancées en matière de lutte contre les infections nosocomiales marquent le pas en France. C'est ce qui était ressorti de la dernière enquête nationale rendue publique par Santé Publique France en juin dernier. Aujourd'hui, 5% des patients hospitalisés sont concernés par ces infections associées aux soins. Cela représenterait à peu près un patient sur 20. Et après une période de régulière amélioration, eh bien, les pouvoirs publics constatent que ces 5 dernières années, le nombre de cas a cessé de régresser. Surveillance, mise en place d'un réseau de veille et d'alerte, hygiène des personnels, des matériels, des infrastructures de santé sont les pivots de cette prévention. Des protocoles éprouvés, des efforts qu'il faut soutenir par des moyens financiers conséquents. Une stratégie complexe qui s'appuie sur formation et information, le respect de mesures de prévention simples pour certaines comme le lavage des mains, complexes pour d'autres comme la limitation des prescriptions abusives d'antibiotiques. Car si cette lutte contre les infections associées aux soins s'est sensiblement, hein, on l'a dit, améliorée au cours des 30 années écoulées, eh bien elle est aujourd'hui affaiblie par une tendance inquiétante, la flambée des infections causées par les bactéries résistantes. La lutte contre les infections associées aux soins, mesures de santé publique. Pour répondre à nos questions, avec nous en studio, professeur Pascal Astagno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la faculté de médecine de Paris, vous dirigez le CEPIAS, Centre de prévention des infections nosocomiales en Ile-de-France. Et avec nous aussi, docteur Anne Berger-Carbone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité infection associée aux soins et résistance aux antibiotiques au sein de Santé Publique France. Tout à l'heure, nous retrouverons au Gabon le docteur Jean-Félix Ngomas, anesthésiste réanimateur et chef du service des urgences au CHU de Libreville. En deuxième partie d'émission, nous allons joindre à Alger le docteur Zoubir Harat, directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, pour évoquer avec lui l'épidémie de choléra qui sévit depuis près de 3 semaines en Algérie. Une cinquantaine de personnes seraient concernées. 2 décès, aucun cas n'avait plus été signalé dans le pays depuis 1996. Et puis bien sûr, notre numéro 1, le numéro de l'émission. Si vous voulez témoigner, poser vos questions, on attend vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Des chiffres, des conseils aussi, et on va le voir au cours de cette émission, combattre un certain nombre d'idées reçues au sujet de ces maladies nosocomiales que l'on appelle aujourd'hui plutôt infections associées aux soins. Alors à partir de quand, professeur Pascal Astagno, est-ce qu'on a perçu cette question comme une véritable nécessité? Il y a eu une prise de conscience au sujet de ce risque sanitaire très particulier.
Alors, la notion d'infection nosocomiale est quelque chose qui remonte en fait très très loin depuis très longtemps, mais peut-être, c'est difficile de savoir pour quelle en est la raison, mais pour des raisons peut-être liées au progrès médical, je dirais, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire, je vais pas refaire l'histoire depuis le Moyen-Âge, mais il y avait une sorte d'euphorie peut-être sur la capacité des traitements antibiotiques à traiter toutes les infections. Et c'est vrai que la découverte des antibiotiques, on connaît l'histoire de la pénicilline, et puis après tout ce qui a suivi, traitement antituberculeux, etc., avait permis des progrès absolument fantastiques de la médecine pour traiter les maladies infectieuses, qui du coup sont devenues des maladies qui ont fait moins peur, sans parler de la vaccination également, qui était également une arme très très efficace, enfin qui est toujours d'ailleurs. Et puis peut-être pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons, pendant je pense une bonne cinquantaine d'années, on a un petit peu oublié peut-être les règles de base de l'hygiène, surtout pour soigner les patients. Et ce concept d'infection nosocomiale, qui veut dire donc infection acquise pendant une hospitalisation, donc des patients a réémergé, si on peut dire, ou est ressurgi, je dirais au début des années 1980 en France, un petit peu plus tôt aux États-Unis. À partir de ce moment-là, je pense que les pouvoirs publics, c'était dans un contexte aussi de relatif scandale sanitaire. Tout le monde se souvient de l'histoire du sang contaminé au milieu des années 80 avec la découverte du virus du sida. Et dans ce contexte-là,
beaucoup de certitudes ont volé en éclats à ce moment-là.
Beaucoup de certitudes ont volé en éclats. Il y a le concept de sécurité sanitaire qui est redevenu un concept important. Les pouvoirs publics, comme vous le savez, dans ces scandales qui n'étaient pas à proprement parler les infections nosocomiales, quoique la transmission d'un virus par le sang, ça pourrait être considéré finalement comme une infection nosocomiale, puisqu'une transfusion sanguine, c'est un soin. Mais c'était très particulier. Comme vous le savez, les pouvoirs politiques ont été mis en cause, il y a eu une affaire judiciaire très complexe, ça a éclaboussé beaucoup de monde, et ça a probablement contribué, c'est peut-être pas la seule raison, mais ça a probablement contribué à une prise de conscience des autorités sanitaires, puisque c'est à cette époque-là que les premières agences de sécurité sanitaire ont été créées, ou en tout cas les prémices de ces agences de sécurité sanitaire, puisqu'à proprement parler, la loi de sécurité sanitaire, la première vraie loi de sécurité sanitaire, c'est en 1998, donc il y a 20 ans exactement, où ont été créés à ce moment-là l'Institut de veille sanitaire, qui est l'ancêtre de Santé publique France, les agences du médicament ou des produits de santé, l'agence de l'environnement, de la sécurité de l'environnement, de l'alimentation, etc. Donc, toutes ces agences-là ont été créées à peu près il y a une vingtaine d'années. Et par ailleurs, pour l'infection nosocomiale à proprement parler, des centres ont été créés, dont celui que je dirige, qui a pris un nouveau nom, mais qui s'appelait avant le CECLIN, au début des années 1990. Donc, c'est-à-dire à peu près à la même époque où cette prise de conscience sur la sécurité des soins et plus généralement sur la sécurité sanitaire des populations a été vraiment une vraie prise de conscience, en tout cas, des pouvoirs publics.
Et une double volonté de transparence, aussi bien de la part du corps médical que du côté des patients. On va revenir aux bases, hein, pour bien poser les choses, docteur Anne Berger-Carbone, si vous voulez bien. Pour parler de ces infections, il y a deux grands modes de transmission. Tout à l'heure, je parlais de combattre un certain nombre d'idées reçues. Quand on pense infection nosocomiale, beaucoup de gens pensent le virus ou la bactérie vient de l'extérieur. Et pourtant, c'est souvent le malade lui-même qui est vecteur. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ce sujet ?
Tout à fait. En fait, vous savez que on parle beaucoup du microbiote en ce moment. Nous sommes porteurs de germes dans notre organisme, dans notre tube digestif, sur notre peau. Et donc, la plupart des infections nosocomiales, à peu près trois quarts d'entre elles, sont liées aux germes que nous portons, qui sont introduits à des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'être, par le geste invasif, par l'intervention chirurgicale, par le cathéter. Et donc, le staphylocoque doré dont on parle beaucoup, et Escherichia coli, ce sont des germes de notre corps. Et donc, rares sont les infections nosocomiales qui proviennent de germes de l'extérieur. Ça arrive, on les identifie, à ce moment-là, il y a une source de contamination qui peut être identifiée, un mode de contamination. On a connu des affaires, Pascal Astagne en parlera mieux que moi, mais de la clinique du sport, etc., où c'était des germes de l'environnement qui étaient en cause. Mais il faut bien rappeler que la plupart des infections nosocomiales, effectivement, sont liées aux propres germes du patient, ce qui ne le responsabilise pas lui-même plus que ça, et ce qui ne déresponsabilise pas non plus le soignant qui a fait le geste. Hein, parce que si on désinfecte la peau avant d'opérer, c'est bien pour enlever les germes qui sont sur la peau, pour éviter qu'ils rentrent dans le site opératoire. Pour parler trivialement, si on donne des antibiotiques aux gens juste avant l'opération, c'est aussi pour réduire la présence de germes au niveau du site opératoire, juste au moment de l'intervention.
Alors, pour être peut-être encore plus trivial, hein, pour que nos auditeurs, ou qu'ils soient dans le monde, comprennent bien, on va dire l'une des infections les plus fréquentes, c'est l'infection urinaire. Poser une sonde en milieu hospitalier, c'est un geste très fréquent. Ça veut dire aussi que les infections nosocomiales, une infection urinaire, ça peut être très gênant, mais pas forcément dramatiques, et des choses qui peuvent être prises en charge et qui peuvent se résoudre. C'est important de le dire aussi, le plus grand nombre, on jongle avec des statistiques, des chiffres impressionnants, un très grand nombre de ces infections, on va dire, ce sont en quelque sorte des infections de la vie courante d'un malade.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais ça fait partie, si vous voulez, l'infection pour un petit peu compléter ce que disait Pascal sur l'historique, le versant un peu juridique de la question, c'était aussi que pendant longtemps, jusqu'aux années 80, il y avait une notion d'aléa thérapeutique. L'infection nosocomiale faisait partie des aléas et des accidents médicaux qu'on devait accepter comme étant des conséquences normales. Il y a eu une évolution de la jurisprudence dans les années 80-90 jusqu'à arriver à la loi Kouchner de 2002 avec la mise en place de la responsabilité systématique en matière d'infection nosocomiale, parce que on s'est rendu compte que c'était très compliqué de faire la preuve d'une responsabilité, sauf dans des cas particuliers comme on a décrit tout à l'heure. Donc cette notion d'aléa, oui, il y a une part d'aléa, il y a une part, et donc on est peut-être là-dedans aussi dans les 5% d'infection nosocomiale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une part qu'on ne pourra pas arriver à zéro, ça fait partie des risques inhérents. Maintenant, il y a quand même beaucoup de moyens de les prévenir et de réduire au maximum ce risque, en fonction aussi de l'état du patient, de sa fragilité propre. C'est tous ces paramètres qui sont compliqués à balancer, hein, et qu'il faut prendre en compte quand on soigne des patients.
Et précisément, professeur Pascal Astagno, est-ce qu'il y a eu certaines infections qui ont régressé de façon spectaculaire grâce à des mesures concrètes?
Oui, je pense qu'on peut dire, au moins on peut prendre deux exemples. Le premier, c'est l'infection du site opératoire. Sur certaines interventions chirurgicales, on a constaté, il y a, je dirais, une bonne dizaine d'années maintenant, une diminution de ces infections, et dont on peut faire raisonnablement penser que c'est lié à une amélioration de l'application des mesures d'hygiène que Anne Berger-Carbone rappelait il y a quelques instants, sur par exemple donner des bons antibiotiques juste avant l'intervention chirurgicale, bien désinfecter la peau. Donc on pense quand même que ça a eu un effet. Puis un deuxième exemple aussi, pour laquelle la France peut, pour une fois, peut-être s'enorgueillir un petit peu, mais on n'est pas les seuls non plus à avoir réussi à un peu mieux maîtriser. On parlait du staphylocoque doré tout à l'heure, et on a constaté depuis une dizaine d'années à peu près une diminution progressive de ces staphylocoques dorés multirésistants aux antibiotiques, c'est-à-dire pour lesquels on a après des difficultés de traitement chez les patients, puisque les antibiotiques, une bonne partie des antibiotiques n'est plus efficace. Et ça, on a constaté très clairement une diminution tout à fait sensible de ces staphylocoques dorés résistants aux antibiotiques. Donc je pense que sur ces deux exemples-là, on peut dire qu'il y a eu des progrès et qu'on peut faire l'hypothèse que c'est bien lié à une meilleure, à des meilleures conditions d'hygiène lors des soins. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a gagné sur tous les tableaux.
Et précisément, ces protocoles, ils sont uniformisés au niveau régional, au niveau national, comment ça se passe?
Oui, il y a, bien sûr, la France fait quand même partie maintenant des pays, je pense, qui servent un petit peu d'exemple. On n'est pas parfait, bien sûr, mais il y a encore des progrès à faire. Mais on a quand même, en 20 ans, je pense, organisé ce programme de prévention, à la fois au niveau national. Comme je vous l'avais dit, les pouvoirs publics ont quand même pris conscience, ont mis quand même des moyens assez conséquents pour essayer d'organiser un petit peu cette lutte contre les infections nosocomiales, et plus généralement associées aux soins. Et puis, il y a des structures qui ont été mises en place, à la fois au niveau régional, au niveau dans les établissements de santé, des équipes spécialisées avec des experts de l'hygiène.
Ça veut dire qu'à partir d'un certain nombre de patients, d'une certaine fréquentation d'une structure de soins, il y a un nombre de personnels dédiés à cette question.
Voilà. Alors normalement, il devrait y avoir un référent de l'hygiène dans tous les établissements de santé, et même au-delà des établissements de santé d'ailleurs. C'est une action qu'on essaye de développer, par exemple dans les établissements hébergeant des personnes âgées, les EHPAD, qui sont de plus en plus des lieux finalement de soins, avec des personnes évidemment très âgées, mais qui ont quand même le droit à avoir une qualité des soins minimum, je dirais, enfin en tout cas selon les standards. Et pour toutes ces structures, en tout cas dans les établissements de santé, il y a effectivement des quotas. En France, est fixé le fait que, par exemple, quand un établissement fait à peu près une taille de 400 lits, il faut qu'il y ait au moins une infirmière. mère, et si possible un
référente,
référente. Voilà. Et puis quand c'est plus là, il faut qu'il y ait un médecin hygiéniste, etc.
Donc Pascal Astagnou, vous nous parlez des EHPAD, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ces établissements qui accueillent des personnes âgées, ce n'est pas institutionnalisé le nombre de personnes affectées directement aux questions d'hygiène et de prévention de ces infections ?
Alors pas encore. Il y a des questions, je veux dire, très pratiques qui se posent. C'est que d'abord, ces établissements manquent de personnel. Déjà, d'une façon générale.
On l'a vu au printemps dernier avec les multiples revendications.
Voilà, donc il y a déjà des questions de ressources humaines, je dirais, en personnel de santé. Et puis, derrière ça, il y a après des questions de formation de ces personnels pour pouvoir servir de référence ou d'expertise, pouvoir apporter l'expertise nécessaire. Alors, bien entendu, il y a une organisation régionale qui permet de soutenir ces établissements. Mon centre, par exemple, on a régulièrement affaire aux EHPAD quand il y a des épidémies, par exemple, où on les aide à essayer de gérer les problèmes, mais on peut pas être derrière tous les EHPAD parce qu'il y a à peu près deux ou trois fois plus d'EHPAD que d'établissements de santé en France, hein. Donc c'est une myriade en fait de structures, et c'est vrai que c'est très compliqué de mettre des experts dans toutes les structures. Donc faut créer des réseaux, regrouper un petit peu, et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ça se développe lentement, peut-être trop lentement, mais ça se développe quand même.
Alors il y a la réglementation, il y a le volet institutionnel, et puis il y a aussi suite à ces infections parfois des parcours de vie contrariés. Tout de suite, une illustration. Témoignage de cette femme, elle s'appelle Victoire. Elle a contracté une infection nosocomiale suite à une chirurgie lombaire. Raphaël Constant l'a rencontrée chez elle en région parisienne.
Alors, j'ai contracté l'infection nosocomiale dans un établissement privé lors d'une intervention chirurgicale, ou plutôt neurochirurgicale, sur le rachis, donc la colonne vertébrale. On m'a retiré un disque, on a fait une greffe osseuse pour essayer de consolider les deux vertèbres ainsi que du matériel de synthèse pour fixer les deux vertèbres. Donc suite à cette intervention, 7 jours après, la cicatrice suppurait. Et là, la clinique voulait me laisser rentrer chez moi. J'ai absolument refusé parce que je savais bien que c'était pas normal. Et j'ai eu raison, parce que si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui je serais morte.
Quel type d'infection nosocomiale vous avez contracté ?
Le germe, c'est un Escherichia coli, plus un protéus. Et puis, il y a peut-être deux autres germes dont je n'arrive pas à avoir les résultats de culture définitifs, mais qui ont été retrouvés initialement. C'est un coxiplus, donc peut-être un staphylocoque, et un klebsiel. Donc j'ai une multi-contamination.
Et combien de temps après votre chirurgie, l'infection s'est-elle déclarée ?
Alors elle s'est déclarée au 8e jour. Au départ, on m'a dit que c'était une infection superficielle, puisque j'avais des abcès derrière les vertèbres. Or, sur le scanner que j'ai effectué, il y avait déjà une infiltration du canal rachidien. L'établissement privé n'a pas reconnu l'infection comme étant nosocomiale. Donc j'ai été réopérée, hein, on a lavé, on a retiré les abcès, et ensuite j'ai été transférée dans un service de référence pour la prise en charge des infections nosocomiales. Au point de vue médical, avant je marchais beaucoup. Je jouais du saxophone aussi, et je travaillais 12 heures par jour aussi. Voilà, j'étais autonome complètement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des séquelles telles que je ne peux pas reprendre mon travail. J'ai essayé en mi-temps, ça a été catastrophique. Et je suis comme une espèce de petite grand-mère de 95 ans, sauf que j'en ai pas l'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire de tâches ménagères. Je ne peux pas rester trop longtemps debout. Je ne peux pas faire de longs trajets en voiture. Je reste confinée sur mon petit canapé. Heureusement, ma tête tient le coup, donc je fais des lectures. Je m'informe.
À quoi sont dus ces symptômes ? Est-ce que cette bactérie a évolué ? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui ?
Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? C'est parce qu'au départ, je pense que la prise en charge n'a pas été optimale. Qu'on n'a pas su réadapter la posologie de l'antibiotique à temps, ni savoir prolonger la prise antibiotique, à mon avis. Et puis surtout, lorsque j'ai refait des symptômes décrivant quand même une infection, puisque j'avais des douleurs, des céphalées, des douleurs de la colonne vertébrale, au niveau des jambes, des pics de fièvre, une fatigue. On n'a pas su m'écouter correctement, ni faire les bons examens pour montrer qu'il y avait au moins l'absence de consolidation. Et puis, lorsque vous rentrez dans une infection qui est chronique, le corps médical est complètement désarmé et puis surtout, il ne sait pas quoi faire. Et c'est très difficile de prouver une infection locale.
Alors, par quels soins vous passez pour combattre cette infection nosocomiale ?
Je suis allée en Allemagne me faire soigner par l'injection de facteurs de croissance, on va dire, de plasma, qui met en route le système pro-inflammatoire. C'est-à-dire, quand il y a une infection au niveau du corps, ça rameute les cellules de défense pour la combattre. Sauf que les bactéries que vous avez surpassent ce processus d'inflammation et d'auto-guérison que vous possédez vous-même. Et donc, par le biais de ce plasma qui concentre un nombre très important de plaquettes, ça multiplie votre immunité. Et suite à cela, on a déjà vu une amélioration. Et cette poche qui ne ressemble à rien derrière la vertèbre, mais qui était peut-être un abcès, on ne sait pas trop, a disparu.
Témoignage recueilli par Raphaël Constant, expérience très douloureuse, hein, professeur Pascal Astagnaud. Bien sûr, quand on n'a pas la personne en face de soi, on ne peut pas lui poser des questions complémentaires pour avoir un tableau complet, c'est toujours très complexe. En tout cas, quel recours pour des personnes qui ont la conviction ou sont persuadées d'avoir été infectées au cours d'un séjour dans une structure de soins ?
Oui, alors bon, c'est une histoire malheureusement dramatique, comme il y en a un certain nombre qu'on déplore évidemment. Plusieurs choses. D'abord, bien entendu, il est absolument pas acceptable que cette personne ne soit pas entendue dans le cadre de son recours pour faire reconnaître son infection nosocomiale. Il y a une loi qui est très claire, je veux dire, avec un recours en indemnisation quand il y a plus de 25% de handicap, enfin d'incapacité reconnue, et que on considère que de toute façon cette infection, qui est une infection du site opératoire, sans aucun doute.
Ah oui, parce que comment on se retrouve, moi je m'excuse, j'ai pas de formation médical, comment on se retrouve avec 4 germes, a priori, bon, après être passé sur le billard.
Là, c'est des choses... Bon, il faudrait voir le dossier. Je ne peux pas rentrer dans le détail du cas, parce que on ne connaît pas, et je pense que Berger Carbone non plus, on ne va pas expertiser là en direct le cas, alors qu'on a juste un témoignage, qui est évidemment, certainement, tout à fait juste, mais je veux dire, on n'a pas les éléments détaillés pour pouvoir répondre à toutes les questions. Non, ce qu'on peut dire, il arrive que, comme l'explique tout à l'heure Angela Carbone, ce sont souvent des germes qu'on porte sur nous et qui ont été introduits au moment de l'intervention chirurgicale, de façon évidemment involontaire, dans le site opératoire. Alors le problème, c'est que là, dans le rachis, c'est-à-dire dans la colonne vertébrale, les vertèbres, c'est un milieu particulièrement
sensible
et fragile et compliqué, surtout parce que les antibiotiques diffusent pas forcément très bien dans la matière osseuse, dans les articulations de la matière osseuse. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser certains antibiotiques, des traitements extrêmement prolongés. Il faut souvent effectivement avoir une réintervention chirurgicale pour déjà au moins localement pouvoir nettoyer, je dirais, les abcès qui se sont formés. Donc c'est un traitement très lourd qui peut avoir des séquelles extrêmement importantes et apparemment
cette
personne qui témoigne a visiblement souffert beaucoup et souffre toujours. Et bien entendu, c'est des choses qui peuvent durer comme ça pendant des mois avec des traitements prolongés. Et bien entendu, on n'est pas à 100% efficace. Bien que là, bon, ne connaissant pas le détail, on ne peut pas dire si le traitement a été bien fait, pas pertinent. Mais pour revenir à votre question initiale, qui est l'information. Parce que ce que je voulais dire, la deuxième chose importante...
Vers qui se retourner ?
Voilà. Et c'est surtout, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des contentieux, pour ces histoires-là. C'est en général parce qu'il y a une mauvaise communication. Voilà, c'est la plupart du temps, c'est pas parce que forcément, bon là en l'occurrence c'est une infection tout à fait, d'après le témoignage, tout à fait grave et tout à fait important, mais certaines fois c'est pas des choses forcément très graves, mais les patients ont la sensation qu'on leur cache la vérité. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans presque tous les dossiers d'affaires de contentieux, c'est cette impression que l'équipe médicale s'est retranchée en fait, n'a pas réussi à communiquer correctement avec la patiente. À tort ou à raison, peut-être qu'ils ont essayé et que du côté de la famille ou de la patiente, il n'y avait pas de communication parce qu'ils étaient déjà très... Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Et c'est souvent ça qui fait que les gens ont un grand ressentiment vis-à-vis des équipes médicales, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a caché la vérité et qu'après, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire pour prendre en compte leurs problèmes.
Docteur Anne Berger-Carbone, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un recours, il y a une médiation possible? Comment on fait?
Tout à fait. Déjà, il y a la médiation au sein de l'établissement. Bon, là, je pense qu'on est au-delà de cette question pour cette dame. Mais ensuite, il y a les structures qui ont été mises en place en 2002 par la loi Kouchner, qui sont les commissions de conciliation régionales et auxquelles on peut avoir accès sur Internet très facilement. Et si les gens sont pas à l'aise avec les outils sur Internet pour chercher les CCI, commissions de conciliation et d'indemnisation, ils peuvent s'adresser aux associations de patients, comme le Lien, comme le CIS, et maintenant, je sais plus, ils ont changé de nom, mais les associations de patients peuvent tout à fait étudier le dossier et conseiller au mieux les patients pour avoir du coup l'intérêt de ces recours, c'est que le patient n'a pas forcément besoin d'avocat. Les délais sont courts, à 6 mois, pour rendre un rapport.
C'est passé par le bon cheminement, en fait.
Voilà, ils ont des experts qui n'ont pas à payer. Et donc, en dehors de quelques frais de déplacement, ce sont, en théorie, des chemins qui permettent d'avoir vite une réponse. Alors, pas forcément une indemnisation, parce que après, le dossier passe en expertise, hein, mais il y a eu une accélération grâce à cette loi de la prise en compte médico-légale de ces histoires. Et ça permet aux patients de comprendre ce qui s'est passé au-delà du problème d'indemnisation, c'est-à-dire qu'il va revoir les soignants qui l'ont pris en charge et qu'il va pouvoir y avoir à froid un nouvel entretien, une nouvelle explication du pourquoi, du comment.
Il y a un élément très important qui est abordé par cette dame, ce témoin, c'est quand elle parle du traitement antibiotique. Et c'est là aujourd'hui vraiment, au-delà des questions d'hygiène stricte ou de désinfection, le grand problème, le grand défi. Là, on dit, même si on met en place des protocoles, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Professeur Pascal Astagnon, on parle souvent sur l'antenne de cette multirésistance, de ces bactéries qui n'ont plus peur justement de cette fameuse pénicilline qui avait été présentée comme le remède à tout. Et c'est important de le dire, avant de se faire opérer, c'est aussi important de ne pas surprescrire pour en arriver justement à ces extrémités.
Alors... Oui, c'est un peu compliqué alors de partir d'un cas particulier comme ça. On ne connaît pas la sensibilité.
Mais en tout cas, aujourd'hui, dans les statistiques, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Ça, on ne peut pas le contester.
C'est sûr. Alors, c'est pas forcément au niveau individuel que la chose se passe. C'est parce que les bactéries multirésistantes se transmettent aussi. Il y a ça. Elles sont transmises au cours des soins, justement. Et c'est pour ça que l'hygiène des mains est quelque chose de tout à fait capital, puisque le mode principal de transmission d'une bactérie qui se trouve sur la peau, comme un staphylocoque, par exemple, ou même d'autres bactéries, comme a eu cette personne, qui sont des bactéries plutôt du tube digestif, enfin bon, mais parfois, au cours d'hospitalisation, elles peuvent se retrouver dans le milieu extérieur ou sur la surface, et au cours des soins, ou même en manipulant simplement le patient, eh bien, ces germes peuvent, si l'hygiène des mains est mal faite, peuvent se transmettre à d'autres patients. Et après, on se retrouve avec même d'authentiques épidémies de ces germes multirésistants. Après, l'arrivée de ces résistances dans ces espèces bactériennes, effectivement, c'est favorisé sûrement par une pression antibiotique au sens collectif hein, du terme. Mais bien entendu, pour un cas individuel, c'est extrêmement difficile de savoir si c'est parce que la personne a pris des antibiotiques avant, parce que si ça se trouve, là, dans ce témoignage-là, elle n'avait pas pris d'antibiotiques avant. D'ailleurs, on ne sait pas d'ailleurs si ces germes sont résistants ou pas, puisque là, elle a décrit quelques germes, mais on ne connaît pas leur résistance. Enfin, je crois que d'une façon générale, si vous voulez, c'est la lutte contre les résistances aux antibiotiques, c'est effectivement les bonnes mesures d'hygiène, et c'est les bonnes règles de prescription des antibiotiques. Et j'ai envie de dire, on est à RFI, c'est-à-dire on a une audience internationale. La question qui se pose dans les pays développés, comme les pays européens, dont la France, ou en Amérique du Nord, est une question qui se pose multipliée par 10 dans les pays qui ont moins de moyens en termes de structures et d'infrastructures sanitaires et de ressources en matière de traitement. Et les quelques études qui commencent à être publiées sur la fréquence des résistances aux antibiotiques dans les pays, je pense en particulier aux pays d'Afrique, subsaharienne, est absolument dramatique. C'est très inquiétant. Parce que autant on peut dire qu'en Europe, on a conscience du problème, même si on ne le maîtrise pas totalement, alors autant dans ces pays-là, je ne sais pas où on va. Parce que, en plus, comme chacun sait, on transporte après, beaucoup de gens voyagent, se déplacent. Donc, c'est des millions de personnes qui prennent l'avion tous les jours. Enfin, donc, il y a forcément un véritable péril. Et d'ailleurs, l'OMS a quand même très récemment communiqué beaucoup sur le sujet, établi des rapports pour essayer de tirer la sonnette d'alarme sur cette question-là, qui est une question vraiment mondiale maintenant.
Ça n'est plus... Et justement, on va faire une illustration sur le terrain, puisque on va partir tout de suite pour le Gabon.
Priorité santé sur RFI.
Retrouvez le docteur Jean-Félix Gomas, bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur, vous êtes anesthésiste réanimateur, chef du service des urgences au CHU de Libreville. On disait tout à l'heure qu'il y avait des établissements concernés, cette question des antibiotiques, des bactéries multirésistantes et aussi des services peut-être particulièrement concernés. Vous travaillez en réanimation. Est-ce qu'on peut dire justement, vous êtes au cœur du sujet en matière d'infections liées aux soins?
Oui, bien évidemment. Nous avons au service de réanimation du CHU de Libreville des cas de bactéries multirésistantes. Par exemple, actuellement, nous avons deux germes qu'on n'arrive pas à éradiquer du service, notamment une klebsiella et un acidétobactère qui sont multirésistants et qui plombent un peu le traitement parce que c'est des médicaments, les antibiotiques qui sont très douloureux, qui sont très onéreux pour les patients et voilà, c'est assez difficile pour nous.
Alors justement, comment est-ce que vous travaillez avec votre équipe, docteur Jean-Félix Gomas, alors que vous êtes conscient qu'il y a très concrètement un risque pour les patients?
Ben, déjà, nous faisons attention par rapport à la qualité des soins, notamment nous savons que le manuportage du personnel est beaucoup incriminé, donc nous avons...
Ça veut dire la transmission, c'est-à-dire tout simplement la transmission des germes ou des bactéries sur les mains des personnels soignants.
Voilà, par le personnel soignant, quand les mains ne sont pas très bien lavées, quand on passe d'un patient à un autre, facilement, il y a des risques de contamination. Et dans le service, heureusement, nous avons des points d'eau qui font que régulièrement le personnel se lave les mains. Et voilà. Mais il faut dire qu'il y a encore des mauvaises habitudes qui persistent. Voilà. Au niveau du CHU de Libreville, il y a eu des campagnes qui ont été menées en matière de lavage des mains, qui ont quand même fait en sorte que les infections nosocomiales diminuent au niveau de l'hôpital.
Alors, vous parlez des protocoles au niveau de votre service, de votre hôpital. Est-ce que vous avez eu connaissance, justement, de diffusion, de recommandations préventives au niveau national pour le Gabon?
Non, malheureusement.
Ça veut dire que c'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les mœurs, dans les esprits, au niveau, justement, par exemple, du ministère de la Santé. On n'a pas encore fait passer de directives nationales.
Non, disons que au niveau du ministère de la Santé, il y a une prise de conscience qui a déjà commencé, parce que le ministère de la Santé mandate des comités qui viennent dans des structures sanitaires pour enseigner, pour informer les praticiens sur la nécessité du lavage des mains. Je disais tout à l'heure qu'au niveau du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville, nous avons eu déjà depuis 2014 trois ou quatre campagnes d'information sur le lavage des mains, et puis une communication par affichage dans les services a été faite. Mais je ne peux pas dire si cette action a été faite à tout le pays, si ça se fait au niveau national. À notre niveau, il y a déjà une prise de conscience qui est considérable.
Est-ce que vous estimez qu'il y a eu quand même une amélioration sur le temps au cours des dernières années, une meilleure prise de conscience? Et autre question, est-ce que d'après vous, les moyens sont à la hauteur justement pour passer des intentions aux actes?
Non, malheureusement, les moyens ne sont pas à la hauteur, vous vous en doutez bien. Mmh. Mais ce qu'il faut dire, c'est que du point de vue des infections nosocomiales dont le personnel est responsable, il y a une prise de conscience. Je vais vous dire, à titre d'exemple, on avait une fréquence élevée des infections sur les voies veineuses, donc les vénites. Un patient à qui on mettait une perfusion, au bout d'une semaine, développait une infection au niveau de la veine qui était perfusée. Et après les campagnes d'information sur le lavage des mains, sur la nécessité de lavage des mains, on a constaté que cette infection nosocomiale avait considérablement baissé. Donc c'est pour dire que il y a quelque chose qui a quand même été fait de façon positive. Maintenant, par rapport aux moyens mis en place, bien évidemment, ces moyens ne sont pas en adéquation avec la réalité.
Et justement, au niveau des personnels de santé, comment c'est ressenti, ces instructions, ces campagnes d'information? Est-ce que c'est perçu comme quelque chose de positif ou plutôt comme quelque chose de stigmatisant? On nous montre du doigt, où on dit c'est un peu de votre faute si vous transmettez ces germes. Comment c'est perçu?
Alors, je vais vous dire, nous sommes dans des pays à moyens limités. Donc, lorsque nous savons faire des choses et que nous n'avons pas les moyens de les faire, c'est assez traumatisant pour nous sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel. Alors, lorsqu'on a par la suite des informations comme ça qui nous arrivent, et quand on nous dit que c'est pour améliorer la qualité de nos patients, ben, la majorité des praticiens sont réceptifs. Le personnel soignant est réceptif. Et après, quand on voit comment les patients évoluent par la suite, ben on est content.
Merci beaucoup, hein, au service donc des patients qui viennent vous voir et qui viennent se faire soigner au CHU de Libreville. Merci beaucoup, docteur Jean-Félix Gomaz, d'avoir été en ligne avec nous du Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et dans ce qu'on vient d'entendre, docteur Anne Berger-Carbone, on comprend l'importance de la formation des personnels à ces questions.
Tout à fait. La formation est fondamentale, et en particulier sur les mesures de prévention. Aussi la formation à la surveillance, puisque là, sur l'exemple qui nous a été relaté, on voit bien l'importance de l'observation et de voir qu'il y a un avant et un après. Et ça, c'est très important sur le plan pédagogique vis-à-vis des soignants. C'est-à-dire quand ils voient que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont mis en place, a eu un effet sur une réduction du taux des infections. Et là, c'est un exemple qui est vraiment très, très intéressant et pour lequel on peut féliciter le service de notre collègue. Ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça.
Justement, professeur Pascal Astagnon, on comprend l'importance du constat de la situation. Réunir les informations, réunir les données, faire remonter les chiffres, c'est absolument essentiel pour après mettre en place ces fameux protocoles, toute cette mission de veille et d'alerte.
Oui, bien entendu, mais je pense qu'il y a une étape préliminaire avant, et notre collègue de Libreville l'a bien souligné, c'est les moyens, parce que si vous mettez en place des mesures, des grandes enquêtes, des systèmes de notification des infections, comme on le fait dans nos pays, en Europe ou en France, c'est bien gentil, mais si derrière il n'y a pas les moyens pour mettre en place la prévention, j'ai envie de dire c'est presque pire. Enfin,
c'est qu'en plus on a la frustration et la culpabilité de mal faire.
C'est d'ailleurs ce qu'il dit très clairement, et il a raison. Je crois qu'il y a des choses quand même importantes. Il y a eu des gros progrès sur l'hygiène des mains qui étaient faits avec les solutions hydroalcooliques. Vous savez, c'est ces produits qu'on utilise, on les trouve maintenant même en pharmacie.
Ces grosses pompes qui sont instituées un petit peu partout quand on rentre dans les pièces.
Et puis on en trouve même des petits flacons, on peut les avoir dans sa poche aussi. Enfin bon, en Afrique, ça a été considérablement promu. Alors bien entendu, il y a des questions de coûts qui ont été d'ailleurs soulignées. Pour ces solutions, l'OMS propose que les pays fabriquent eux-mêmes leurs propres solutions, de façon à ce que ça se fasse à un coût acceptable pour des pays qui n'ont pas les ressources financières suffisantes ou les établissements de santé. Et puis, il y a aussi la question du coût des antibiotiques qui a été soulignée, parce que quand on parle des résistances, il y a aussi le fait que si l'arsenal d'antibiotiques qui est disponible n'est pas adapté au traitement des infections, et qu'à chaque fois, c'est des antibiotiques soit parfois très coûteux, soit de toute façon qui ont un spectre extrêmement large, c'est-à-dire qui tuent finalement toutes les bactéries. C'est comme ça, c'est la meilleure façon de sélectionner les plus résistantes, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu prendre, un bazooka pour tuer une mouche. C'est-à-dire, parfois, vous avez des infections très sensibles. Si vous donnez des antibiotiques qui, en plus, détruisent toute la flore bactérienne ou une grande partie en terrain, vous risquez de faire émerger par argument de probabilité, simplement, des bactéries qui sont très résistantes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est évidemment catastrophique. Parce que non seulement c'est des antibiotiques chers, mais en plus, ils sont pas adaptés. Donc, il y a vraiment là, d'un côté, sur l'hygiène, avec l'utilisation des solutions hydroalcooliques, vous avez quand même des établissements de santé en Afrique qui ont des problèmes d'alimentation en eau. Donc, si vous leur dites, lavez-vous les mains, mais qu'il n'y a pas d'eau, ou pas suffisamment de points d'eau, vous voyez, donc il faut trouver des solutions qui soient différentes. Et puis, il y a la question des antibiotiques.
Alors, vigilance, transparence, là on est loin de la situation en Afrique. Mmh. On voit apparaître dans certaines publications en France des classements des hôpitaux en fonction de la fréquence ou non de ces infections liées aux soins. Est-ce que vous trouvez, vous, je vais poser la question à chacun d'entre vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, professeur Astagnaud?
Les classements,
les
classements, vous savez, c'est un mal français.
Ouais. Hein,
on aime bien classer tout.
On a pour les écoles,
voilà,
on a pour les
maternités. Voilà, ça commence à la maternelle, donc on est habitué. Ça c'est un peu pour la boutade. Je pense qu'il y a eu... Moi, je suis convaincu, je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'était utile...
La transparence.
...de mettre des éléments, je dirais, des sortes de tableaux, finalement, chaque année, pour évaluer les hôpitaux sur leur performance à lutter contre ces infections, et que ça soit disponible pour le public. Et donc, je pense que ça a eu un effet, même si, finalement, la population ne tient peut-être pas tellement compte de ces résultats pour aller se faire soigner, parce que, d'abord, on choisit pas toujours l'endroit où on va se faire soigner, c'est pas comme un hôtel quand même, l'hôpital, mais malgré tout, je pense que ça a eu un impact sur les personnes qui dirigent l'hôpital, le management, parce que la notoriété d'un établissement de santé, tout particulièrement dans le système privé, mais aussi dans le public, en France, c'est quelque chose de très important, et donc l'idée de dire, je suis mal classé sur ces indicateurs qui sont publiés, je pense que pour un directeur d'hôpital, c'est quelque chose qui a un impact.
Docteur Anne Berger-Carbone, c'est un sentiment que vous partagez?
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire le professeur Astagnaud. Et je rajouterais, oui, nécessité de transparence, mais d'abord, confiance entre le patient et son médecin, et le choix d'établissement, le choix du médecin pour une intervention doit reposer d'abord sur une relation de confiance individuelle avec le praticien. Bien sûr, les chiffres sont importants et il faut pouvoir les montrer, mais c'est une relation humaine d'abord, hein.
Avec justement, ça me fait rebondir sur cette question de la stigmatisation. On a entendu dans l'actualité, dans les médias, les affaires d'infections nosocomiales les plus médiatisées sont souvent les plus spectaculaires et peut-être les moins représentatives de la généralité. Malgré tout, professeur Astagnaud, ça fait beaucoup de mal, mais en même temps, c'est un mal nécessaire.
Oui, je crois que c'est la carotte et le bâton. C'est-à-dire, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a des coups de bâton parce qu'il y a vraiment des affaires qui se passent mal. Et on avait évoqué la clinique du sport à Paris il y a une bonne vingtaine d'années maintenant.
Ce qui avait conduit d'ailleurs à fermer cet établissement.
Enfin,
il y avait une procédure judiciaire très lourde, etc.
Une procédure judiciaire qui a duré des années d'ailleurs, avec plus d'une cinquantaine de victimes pour une infection qui était théoriquement rarissime, qui ne s'était quasiment jamais vue et qui était presque une inoculation directe d'une bactérie dans les, un petit peu comme cette patiente tout à l'heure, sauf que c'était un germe très particulier qui s'appelait le Xenopi. Mais en tout cas, c'est une affaire assez emblématique, effectivement, à la fois du manque de communication du corps médical vis-à-vis des patients, à la fois pour des raisons, on va dire, un petit peu d'intérêt, à la fois économique, financier, et puis aussi de notoriété, essayer de maintenir, de ne pas diffuser cette information et de ne pas informer correctement. Ça a été quand même ce qui a été à l'origine vraiment du scandale. Et puis derrière, effectivement, les pouvoirs publics ont dit mais ça peut pas se reproduire une affaire comme ça. Donc il y a eu des réglementations qui sont venues, des lois, etc. qui ont, je pense, été une des conséquences de cette affaire de la clinique du sport. Il y en a eu d'autres après derrière, mais celle-là a été quand même un événement déclencheur. Donc bien entendu, malheureusement, il faut des scandales de temps en temps pour faire bouger les choses. On aimerait mieux les éviter, mais voilà.
Pour nos auditeurs qui nous suivent, tout à l'heure, au début de l'émission, j'avais annoncé que nous aurions un confrère de l'Institut Pasteur pour parler du choléra en Algérie. Hélas, depuis tout à l'heure, on essaye de l'avoir, la ligne ne passe pas, donc ne pensez pas que nous avons passé ce sujet à la trappe, c'est simplement que pour des raisons techniques, c'est pour l'instant impossible. Une question importante qu'on n'a pas évoquée directement depuis le début de l'émission, et ça va être notre conclusion, on a dit on a changé de terme, nosocomiale, infection liée aux soins, c'est aussi parce que ces infections, ce n'est pas simplement, et c'est important de le dire, professeur Pascal Astagnaud, ce n'est pas simplement à l'hôpital que ça se passe. On peut aussi attraper quelque chose en allant chez son médecin, dans un cabinet au coin de la rue, en étant dans la salle d'attente, en étant avec d'autres patients qui sont porteurs de plein de petits germes. On voit ça notamment chez les pédiatres quand ces enfants toussent. On arrive, on passe les uns après les autres, la pièce n'est pas désinfectée. Là aussi, il y a un risque de contamination, c'est réel.
Oui, alors je me permettrai juste de nuancer un petit peu ce que vous dites. C'est-à-dire, oui, bien entendu, il y a des risques de transmission d'infections dans d'autres lieux de soins que l'hôpital. Et c'est pour ça qu'on a élargi ce concept il y a une dizaine d'années de nosocomiale qui concernait vraiment l'hôpital, la réanimation, la chirurgie, c'était vraiment les soins hospitaliers, à l'ensemble des soins parce que finalement, et plus ça va, comme vous le savez, l'évolution finalement de la prise en charge des patients se fait de plus en plus à l'extérieur de l'hôpital. Les patients restent de moins en moins longtemps à l'hôpital et ils vont après dans des structures soit de convalescence, de rééducation, ou bien ils retournent si c'est des personnes âgées par exemple dans leur institution ou bien à domicile, et ils vont aussi en consultation. Alors vous dites le pédiatre ou le médecin généraliste, bon, on va pas désinfecter la pièce, c'est
bien
pas ça
la
mesure, mais par contre avoir un petit distributeur pour se faire une hygiène des mains et mettre à disposition
quand on est malade,
quand vous toussez, mettez le masque pendant la salle d'attente, parce que c'est sûr qu'une salle d'attente un peu confinée avec 20 personnes qui attendent leur consultation de médecin, ça peut vite être une source de transmission importante de maladies respiratoires comme la grippe ou d'autres maladies respiratoires transmissibles.
Merci, on l'a compris, des mesures simples, on ne le dira jamais assez, cette fameuse désinfection, lavage des mains, très important. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation, professeur Pascal Astagnaud, professeur à la Faculté de médecine de Paris, et à vous, docteur Anne Berger-Carbone, responsable de l'unité infection associée aux soins résistance aux antibiotiques au sein de l'Agence Santé Public France. Et merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Victor Hull. Demain, dans Priorité Santé, retour en arrière, retour dans le temps, puisque nous parlerons du centenaire de la grippe espagnole. Le numéro de l'émission, 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.